Les cours du Collège de France, Stéphane Mallat, chaire Sciences des données.
Alors, je vais reprendre aujourd'hui là où on en était sur les gammes et on va avancer vers les algorithmes aussi de renormalisation, de flow, renormalization flow en anglais, qui définissent le transport. Alors, juste une remarque sur ce sujet globalement qu'on est en train d'explorer. Donc, les GAN, je vous avais dit, c'est le premier papier, il date de 2014. C'était un papier qui a été écrit par toute une équipe qui était dans l'équipe de Benjo, dont Goodfellow était le premier auteur. Et l'idée qui vraiment a été très importante dans ce papier, c'est finalement le fait qu'on peut définir des transports avec des réseaux de neurones profonds et que la paramétrisation de ces réseaux de neurones profonds permettent de définir des transports qui sont extraordinairement sophistiqués, permettent d'associer à un bruit blanc la distribution d'images, en tout cas permettent de faire des générations d'images. Et donc ça, ça a été une première idée vraiment importante. Et ce que vous allez voir, c'est qu'il y a eu toute une évolution d'idées qu'on va explorer à travers les 2-3 séances de cours ici. Et d'une certaine manière, c'est un très beau sujet pour illustrer, c'est un peu le thème ou le motto du Collège de France, la recherche qui est en train de se faire. Vous allez voir comment ces idées ont évolué petit à petit. Ce qui est un peu spécifique dans le cas de tout ce domaine de l'intelligence artificielle, c'est que ça va très vite. C'est-à-dire en 10 ans, les techniques se sont transformées rapidement avec beaucoup d'améliorations. Mais en même temps, vous allez voir que ces techniques, elles trouvent leurs racines dans des mathématiques qui sont anciennes, qui datent du début du 18e. Les idées de transport, c'est Monge. Le transport optimal, donc, c'est aux alentours de 1810, par là, qu'il a fait son mémoire. Et donc, à la fois, ça va très vite, mais en même temps, c'est ancré dans des idées mathématiques assez profondes qu'on voit réapparaître. Donc, on va reprendre l'idée du GAN. L'idée du GAN, c'est que vous partez d'une variable aléatoire Z qui est une distribution PZ qui peut être assez simple, par exemple du bruit blanc, donc tout simplement une gaussienne en grande dimension avec une covariance qui est l'identité. Et puis on va définir un transport avec ce qu'on appelle un générateur, qui est un réseau de neurones qui va avoir énormément de paramètres, potentiellement des millions ou des milliards, qui vont être définis par les poids du réseau de neurones, qui va donc synthétiser une image qui a été cette transformation de cette variable aléatoire ici, donc qui va avoir une distribution de probabilité, elle, qui évidemment a été transportée, qui est définie ici. Et puis, ce qu'on veut, c'est optimiser donc ce générateur. Et pour optimiser ce générateur, ce qu'on va faire, c'est comparer ces images avec des images, disons, réelles, c'est-à-dire qui vont être dans notre base de données d'entraînement. Et ces images, on va les donner à un discriminateur. Et le discriminateur, il est lui-même paramétré par... c'est un réseau de neurones aussi, c'est essentiellement un classificateur. Et son rôle, c'est de déterminer si la probabilité des deux X pour que définir si les images sont, disons, des fausses images ou sont des vraies images, c'est-à-dire qui proviennent de la bonne distribution, sachant que la bonne distribution, elle a une certaine distribution de probabilité P de 2X. Et l'idée très jolie qui est proposée dans ce papier, c'est de résoudre ça avec un problème d'optimisation min-max, c'est-à-dire qu'on va minimiser sur le générateur l'erreur, mais le discriminateur, lui, c'est l'adversaire, il va essayer de maximiser la fonction de coût. Donc la fonction de coût qui est définie par une fonction du discriminateur et du générateur, j'ai écrit comme ça, et qui ici va être définie comme l'espérance du log de d de x quand x appartient donc est distribué suivant la vraie distribution. Ce qu'on veut, c'est que d de x soit près de 0. Et quand on veut, quand au contraire, on est en train de considérer une donnée qui est fausse, donc qui a été générée, donc qui a été produite par la variable aléatoire z, eh bien, ce qu'on veut, c'est que la quantité soit 1 moins g de z. Donc, le discriminateur, qu'est-ce qu'il va essayer de faire ? Il va essayer de maximiser cette quantité. Donc, il va essayer de se débrouiller pour que ceci soit de l'ordre de 1 lorsque x est bien produit par la bonne distribution. Et ceci va être de l'ordre de d de g de z va être de l'ordre de 0, c'est-à-dire qu'il va reconnaître que c'est une fausse image, et donc le log va être égal à 1. Et donc, du coup, cette quantité va être égale à 0, ce qui est la valeur maximum qu'elle peut prendre. Donc ça, c'est l'idée de la fonction de coût. Et ce qu'on a démontré la dernière fois, c'est que si on essaye effectivement de calculer le discriminateur optimal qui maximise cette quantité, alors ce discriminateur optimal, donc là, le calcul de cette probabilité, il va être tout simplement défini par la probabilité d de d de x sur p de d de x plus p de du transport. Donc ça, on l'a démontré la dernière fois. Et donc, si vous êtes sur un x qui est effectivement produit par sur le support de la distribution, ça va être plus grand que ceci, donc ça va être proche de 1. Si au contraire vous vous trompez complètement, ça va être petit, mais celui-là va être grand, et le dd étoile va être petit. Donc ça, c'est le discriminateur optimal. Et du coup, ce qu'on a vu à nouveau la dernière fois, c'est que si maintenant on essaye de résoudre le problème qui consiste à minimiser sur G et ensuite à maximiser sur D notre fonction de coût, eh bien, le minimum, il va être égal à moins 2 log de 2. Et en fait, ça, c'est obtenu tout simplement en prenant P de G égale P de D. C'est-à-dire, pour atteindre le minimum de la fonction de coût, il faut effectivement que le générateur vous fasse un transport qui vous produise une distribution de probabilité qui est égale à la bonne distribution de probabilité des données. Alors pourquoi ça c'est le cas ? Tout simplement parce que si on regarde la valeur de V pour le D optimal qui maximise sur D la fonction de coût, donc c'est-à-dire si on remplace cette valeur à l'intérieur de la fonction de coût, eh bien ce que l'on obtient c'est la distribution. On va avoir une espérance sur PD de log du rapport. Ça ne va être autre que la distance, divergence de Kullback-Leibler entre PD et la moitié de PD plus PG. Et puis, il y a deux termes. Le deuxième terme, ça va me donner une divergence de Kullback-Leibler relativement à PZ, entre PZ et la moitié de PD plus PG. Excusez-moi, ça va être relativement à PG. Et ensuite, parce que j'ai introduit les facteurs 1,5, pour les enlever, je vais avoir un moins 2 log de 2. Et donc, quand est-ce qu'on va pouvoir minimiser ça ? Pour minimiser ça, il faut que ces divergences qui sont toujours positives s'annulent. Et pour que les divergences s'annulent, il faut que cette distribution de probabilité soit égale à celle-là et que celle-ci soit égale à celle-là. Et donc, la condition, c'est bien que la distribution des données générées soit égale à la distribution des vraies données. Et donc, on tombe sur ce résultat. Donc, quand on voit tout ça, c'est vraiment très joli parce que ça résout essentiellement le problème. Et donc, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Alors, le calcul, ça va être quoi ? L'algorithme, il va essayer de résoudre ce problème qui est un problème d'équilibre de Nash, c'est-à-dire vous avez deux participants qui doivent s'adapter pour faire l'optimisation et qui doivent être dans un état optimal étant donné la position de l'autre participant. Donc, ce qu'on va faire, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire il va d'abord falloir calculer le max sur D. Donc, on va avoir une descente de gradient stochastique sur les paramètres du discriminateur. Et puis, une fois qu'on a fait cette descente de gradient, on va faire la descente de gradient sur le générateur, les paramètres du générateur. Et puis, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on revient, etc., jusqu'à ce que le système arrive à l'équilibre. Donc, pareil, si jamais j'ai un paramétrage suffisant du discriminateur et un paramétrage suffisant du générateur, ça peut marcher, sauf que, évidemment, on est en train de faire une descente de gradient sur un problème qui a beaucoup de minima locaux. Donc, il y a toutes les chances pour qu'on tombe sur un minima local. Alors, c'est quoi les problèmes qu'on observe ? D'abord, c'est difficile à entraîner. Pourquoi ? Parce qu'on a ce problème d'adversaire. Et donc, on peut avoir entre les deux des phénomènes d'oscillation si jamais on ne fait pas très attention à l'optimisation. Donc, ça, c'est les problèmes d'oscillation sur les solutions. Encore pire, le deuxième problème, c'est qu'évidemment, on peut être coincé dans des minima locaux. Sur le discriminateur. Ça veut dire quoi, un minima local sur le discriminateur ? Ça veut dire que le discriminateur va reconnaître que certaines images sont des bonnes images, mais potentiellement, il va se planter sur des images qui finalement sont assez rares parmi les images réelles et il va les considérer comme des images fausses. Et qu'est-ce que ça va produire ? Ça va produire ce qu'on appelle des modes, en anglais, mode collapse. Alors ça, c'est lié à la difficulté principale qu'on avait vue quand vous avez des distributions de probabilité que je représente ici par leurs énergies. Donc, vous avez des modes qui sont des énergies minimum qui sont ici, mais vous en avez aussi un autre ici. Et ce qui peut se passer, et on l'a vu, ça c'est tout le problème des algorithmes qu'on a brièvement vus avec des chaînes de Markov, c'est que le modèle peut se retrouver coincé ici et systématiquement rejeter ceci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez des images de visage, eh bien, vous allez reproduire qu'un certain type de visage et vous n'allez pas reproduire d'autres types de visages. Ou si vous avez des scènes, par exemple, avec ça, c'est des choses qui ont été à nouveau observées expérimentalement, des scènes de chambre à coucher. Et puis, de temps en temps, vous avez dans vos images quelqu'un qui est dans la chambre à coucher, eh bien, vous pouvez reproduire des images où il n'y a jamais personne dans la chambre à coucher parce que c'est un cas un peu rare, qui est assez complexe, beaucoup de diversité, et donc qui n'a pas été reproduit. Donc ça, c'est le gros problème. Et puis l'autre problème, c'est que dans ces oscillations, il peut y avoir des oscillations entre minima locales. Locaux, pardon. Et ça veut dire que d'une certaine manière, vous allez passer de l'un à l'autre. Et c'est comme si vous faisiez un oubli catastrophique. C'est-à-dire, tout d'un coup, vous reproduisez certaines images et ensuite, vous en reproduisez d'autres, mais vous n'arrivez pas à reproduire tout en même temps. Alors, la difficulté aussi, c'est que c'est un peu un piège, ces résultats. Parce que ce que le GAN va avoir tendance à faire, et je vous ai montré des images, c'est produire des très belles images, typiquement, c'est-à-dire des images qui, effectivement, sont dans un des modes de la distribution de probabilité, mais vous n'avez aucune garantie qu'en fait, il soit en train de reproduire toute la distribution de probabilité. Il y a beaucoup de chances, et c'est effectivement souvent le cas, là même pratiquement toujours, qu'il reproduise qu'une sous-partie. Et donc, il y a un manque de diversité. Et ça, c'est très difficile à vérifier. Est-ce que vous avez suffisamment de diversité ou est-ce que vous n'avez pas suffisamment de diversité relativement à la distribution initiale? Alors, ça, c'est le problème qui a essentiellement été attaqué pendant, disons, les 6 années qui ont suivi. D'abord, l'effort, ça a été de reproduire des belles images avec des réseaux de plus en plus gros. Au bout d'un moment, typiquement, on a obtenu ce genre d'image, donc ça doit dater de 2017 ou quelque chose comme ça. Donc, énorme réseau de neurones avec des GPU d'NVIDIA. Ensuite, c'est bien joli, on fait des belles images, mais est-ce qu'on a la bonne distribution de probabilité? Et alors, là, quelque part, on se doute que quand même va y avoir un problème. Pourquoi? Finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'optimiser une métrique, qui est une métrique de Kullback-Leibler. Or, on l'a vu la dernière fois, une métrique de Kullback-Leibler, c'est vraiment compliqué à optimiser. On l'a fait de façon tout à fait rigoureuse à travers des chaînes de Markov et à travers l'algorithme de Metropolis, si vous vous souvenez. Et ce qu'on a aussi vu, c'est quand on commence à faire une descente de gradient sur les paramètres du système, il faut calculer la constante de normalisation. Ça demande d'échantillonner la distribution de probabilité paramétrée à chaque étape de descente de gradient. Donc, c'est très lent. Là, en apparence, on est en train d'éviter ce problème et pourtant, on fait la même optimisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière l'optimisation du θD, on est en train de résoudre le problème qu'on avait avec ces chaînes de Markov qui, elles-mêmes, permettaient à chaque itération de l'optimisation de la distribution de probabilité d'échantillonner la distribution de probabilité. Donc, ce problème-là, il est très difficile, a priori. Et donc, ce n'est pas tellement surprenant qu'on ait beaucoup de minima locaux et qu'on ait du mal à le calculer en un temps à peu près raisonnable et avec les métriques qu'on a. Donc, du coup, la question qui s'est posée ensuite est de se dire, finalement, ça, c'est peut-être pas la bonne métrique qu'on veut imposer pour comparer des distributions de probabilité. On est en train de faire un transport. Ensuite, on a 2 métriques, la métrique qui a été transportée et la métrique des données. Comment on va comparer ces 2 métriques? Et l'idée, c'est de dire, finalement, cette métrique, elle est trop forte, d'une certaine manière, elle est trop sensible, donc du coup, ça va être difficile à optimiser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer cette métrique par une métrique qui est un peu plus faible. Et c'est là que viennent les idées de transport optimal. En tout cas, dans ce cadre-là. Donc, à nouveau, l'idée, c'est qu'on doit, d'une certaine manière, PG, c'est une distribution de paramétrés qui est une distribution de probabilité qui est paramétrée par θG. Et cette distribution ici de probabilité, au moment où on va optimiser le générateur, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une dépendance en θg qui soit régulière. Parce qu'on va faire une descente de gradient sur θg, c'est-à-dire qu'on va petit à petit changer les paramètres. Quand on change petit à petit les paramètres, ce qu'on voudrait, c'est que la distance qu'on a ou la divergence, disons, entre la vraie distribution et la distribution qu'on calcule, eh bien, elle bouge régulièrement. Le problème, c'est que si vous utilisez pour cette divergence une divergence de KL, eh bien, ça ne va pas être vrai. C'est-à-dire, vous pouvez un petit peu bouger θ, et boum, la distribution de KL bouge très rapidement. Donc, ça va être très compliqué à optimiser. Donc, la question qui s'est posée là, c'est de se dire, est-ce qu'on peut trouver une métrique plus faible, qui soit un peu moins sensible, et qui permette malgré tout de garantir que quand la métrique vaut zéro, eh bien, effectivement, les deux distributions sont égales, mais par contre, qui aura une évolution plus régulière lorsqu'on va faire une descente de gradient par rapport aux paramètres. Et ensuite, à nouveau, les paramètres de D ce sont, qu'on optimise, c'est ceux qui vont définir la métrique. Donc, ce qu'on voudrait, c'est changer la métrique. Et changer la métrique, je la mets entre guillemets, la métrique, parce que ce n'est pas une distance, c'est une divergence. Hein. C'est ça qui a amené un certain nombre de chercheurs à dire, OK, on va revenir sur des métriques autres, et notamment les métriques obtenues par le transport optimal. Alors, le transport optimal, je vais vous faire une présentation rapide de l'idée. Vous allez avoir deux très beaux séminaires par deux des experts mondiaux du domaine, qui sont Gabriel Perret, ce sera la semaine prochaine, et puis Vincent de Bortoli, qui reprendront ce thème dans le cas du score diffusion, et vous verrez que ça a un impact assez profond. Bien au-delà des GAN, là, je vais vous le faire dans le cas des GAN. Alors, le transport optimal, c'est associé à deux noms, Monge et Kantorovitch. Alors, je vous disais, c'est des sujets qui sont intéressants parce qu'ils ont des racines mathématiques qui sont assez profondes. Donc, Monge, c'est les dates nées 1746, mort 1818. Donc, typiquement, Monge, ça a été un enfant de la Révolution, puis de l'Empire. Il a une œuvre absolument impressionnante. C'est comme tous ces mathématiciens de cette époque, comme par exemple Fourier. Vous avez non seulement une œuvre mathématique en géométrie, en analyse, mais aussi il est à l'origine de la création de l'École des arts et métiers. Il faisait partie de la campagne d'Égypte et a travaillé un peu en égyptologie. Et puis aussi l'École polytechnique, il a écrit tous les programmes de mathématiques au moment de la création de l'école. Donc, Monge, évidemment, son problème, il ne venait pas de là. C'était un rapport pour l'Académie des sciences sur les remblais et les déblais. Alors, quel est le rapport? L'idée, c'est la suivante. Donc, formellement, vous avez... Donc, à nouveau, on est dans un cadre de transport. Vous avez une distribution de probabilité, donc ça, c'est je vais d'abord me mettre dans mon cadre de transport, et puis ensuite, je veux transporter une distribution de probabilité d'un domaine à l'autre, et hop, sachant que x est égal à t de z. Donc, quel est le rapport avec le problème de Remblay et de Déblay? Eh bien, vous avez... des matériaux, du sable, d'accord, et vous voulez boucher des trous, d'accord. Donc vous avez votre sable qui est distribué quelque part par là, et puis ensuite vous avez des trous, plus ou moins profonds, et ce que vous voulez mettre, c'est tout le sable pour boucher les trous. Et vous voulez faire ça avec un minimum d'effort. Donc le sable, vous voulez le transporter sur une distance minimum tout en bouchant les trous. Donc la question, c'est ce grain de sable, où est-ce que vous allez le mettre? Est-ce que vous allez le mettre là, là ou là, de manière à minimiser l'effort, c'est-à-dire la distance de transport? Donc ça, c'est le problème des remblais et des déblais. Donc une fois que vous regardez ce problème, et ça c'est quand même Moi, à chaque fois, je suis épaté toute la beauté des maths. C'est que vous prenez un problème qui n'a strictement rien à voir, vous l'écrivez sous forme mathématique et hop, vous tombez sur le même problème. Eh bien, effectivement, on peut écrire quel est le coût de transport. Ben, le coût de transport, donc, Z, c'est la variable ici, la position d'arrivée, ça va être X. Ben, le coût de transport, ça va dépendre de la distance entre Z et son point d'arrivée. Et par exemple, ben, vous pouvez tout simplement calculer ça comme étant la métrique Z moins T de Z, la norme, ou la distance. Et puis, suivant ce que vous voulez, vous pouvez mettre une puissance, puissance m au carré ou à puissance 3, ce que vous voulez, suivant le coût que vous associez au transport. Et puis ensuite, eh ben, ce que vous voulez, c'est minimiser le coût de transport. Donc, le coût de transport, ça va être quoi? Ça va être la somme pour tous les points que vous allez devoir transporter, donc de la distance entre z et t de z. Ça, c'est mon coût. Et puis, chaque point, je vais devoir le transporter et la quantité de points ou de particules est proportionnelle par rapport à la densité de probabilité. Donc, je vais calculer l'espérance par rapport à P de Z, dz. D'accord ? Et avec la contrainte que le transport de la distribution de PZ doit me donner la distribution désirée d'arrivée de PD. D'accord ? Ça, c'est la contrainte, le fait que j'ai bien transporté PZ dans la distribution de données qui est ici. OK ? Donc, ça va être... et ce que vous voulez, c'est calculer l'inf sur T, c'est-à-dire, vous voulez calculer le transport qui va minimiser le coût sous contrainte qu'on a bien envoyé la distribution PZ sur PD. Et ça s'appelle la distribution de Wasserstein entre, d'ordre M, puissance M, entre PD et PZ. Ou PZ et PD. Alors, ça est donc le problème de Monge, c'est... Est-ce qu'il existe une solution? Quelle est la condition sur la distribution de probabilité pour que ça existe? Et comment est-ce qu'on la calcule? Alors, est-ce qu'il existe une solution? Ben, en général, non. Non, imaginez par exemple que ici, vous ayez un Dirac sur un certain Z0, donc votre distribution de probabilité, c'est... Tout est concentré en un point, et que ici, vous ayez deux Dirac. Donc, PD serait égal à un Dirac en X1 plus un Dirac en X0, et PZ est un Dirac en un certain Z0. Ben dans ce cas-là, ça ne marche pas. Parce que vous avez imposé que T, c'est une fonction. Donc Z0, il va être envoyé quelque part et il ne peut pas être envoyé à la fois en X1 et en X0. Pour que ça marche, il faudrait que le point soit divisé en deux. Et là, vous avez une fonction donc, qui, à chaque point, va associer un point de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de solution dans ce cas-là. Alors, si vous avez des conditions de régularité raisonnables, on arrive à démontrer qu'il y a des solutions, mais en fait, le calcul explicite de ces solutions, l'optimisation est un problème non convexe compliqué. Et donc, c'est là qu'arrive Kantorovitch, donc bien plus tard. Donc Kantorovitch, son papier, je crois que c'était 1942, et il a eu le prix Nobel en économie, donc rien à voir en apparence. Mais en 1975, parce que ces problèmes de transport apparaissent un peu partout en économie. Et donc, c'était quoi la très belle idée introduite par Kantorovitch? Ça a été de passer finalement d'un transport déterministe à un transport stochastique. Donc là, on retombe aussi sur les idées que je vous avais mentionnées quand je vous avais parlé des chaînes de Markov. Les chaînes de Markov, vous calculez un transport par étape, mais à chaque point... vous avez une probabilité de transition, donc vous pouvez vous retrouver dans un état ou dans un autre état avec certaines probabilités. Donc votre transport est stochastique. Même idée en sous-jacent, donc ça c'est la relaxation qui a été introduite par Kantorowicz. Et donc l'idée c'est que d'une certaine manière, donc c'est ce que je disais, on va avoir un transport stochastique. Et la manière de le regarder, c'est que vous avez vos deux variables. Z, donc qui est une variable en grande dimension, là que je symbolise par un seul axe. Et puis, vous avez votre variable d'arrivée, X, ici, qui n'a pas de raison d'avoir la même dimension. Hein. Z et X peuvent être deux vecteurs de dimensions qui sont différents. Et l'idée, c'est que vous avez une distribution de probabilité qui est ici, qui est PZ. Et vous voulez arriver à une distribution de probabilité ici. D'accord ? Donc, dans le cas de Monge, vous avez un transport déterministe. Donc, chaque point de Z est envoyé sur un point de X. Autrement dit, vous imposez que ce point-là doit arriver, par exemple, ici. L'idée de la relaxation de Kantorowicz, c'est de dire non, on ne va pas imposer que Z aille sur un point unique, on va lui permettre d'aller un peu n'importe où avec des distributions de probabilités différentes. Donc, autrement dit, on va définir une densité de probabilité ici, gamma de Zx, qui, à Z fixé, va donner la distribution de va vous donner la répartition de ce point dans tous les endroits. Maintenant, si vous sommez le long de cet axe, ben, ce que vous devez obtenir, c'est la valeur PZ de Z. Donc, autrement dit, on va avoir une première contrainte, c'est que l'intégrale de gamma Z de X, et là, vous avez la distribution de probabilité des données, le long pour tous les x, donc, va vous donner pz de z. Et puis, inversement, ce que vous voulez, c'est que quand vous avez fait vos transports de tous les points, vous avez les distributions, eh bien, vous l'avez fait de manière à ce que, ici, quand vous regardez le nombre de points qui ont atterri en un certain x0, ça va bien correspondre à la distribution de probabilité, si on renormalise. Et donc, si je somme verticalement, donc si je prends l'intégrale de gamma de z de x, p maintenant, le long de la variable z, donc pz, z, ça doit me redonner la distribution de probabilité de x. Donc ça, c'est la condition pour que effectivement vous ayez fait le transport dont vous avez besoin. Et maintenant, ça, donc c'est ce qui va vous garantir cette propriété-là. C'est la propriété de transport, sauf que à nouveau T maintenant est défini par un transport stochastique. Et maintenant, vous voulez en plus imposer la propriété de minimisation, c'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est là, on va redéfinir cette distance de Wasserstein entre les deux distributions de probabilité. Ça va être maintenant une minimisation sur gamma. Et je vais l'ensemble des distributions qui satisfont ces propriétés. Je vais dire que ça veut dire que gamma, symboliquement, appartient à l'ensemble des distributions dont les marginales sont PD et PZ. Donc je regarde l'ensemble des gammas dont les marginales sont PD et PZ, et là-dessus, je minimise le coût, et le coût, alors c'est un inf, parce que c'est la moyenne de la distance, donc ce que je veux minimiser, c'est la distance entre Z et X à la puissance M, et je vais regarder l'espérance relativement à ZX distribué selon gamma. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ce coût ici, je l'ai rendu symétrique. Je vais vous réécrire ce que c'est que cette espérance. Donc je suis en train de définir le coût de transport comme étant une version symétrisée, c'est-à-dire l'intégrale de l'erreur entre z et x puissance n. Mais au lieu de simplement intégrer par rapport à p de z, je vais intégrer par rapport à la distribution jointe entre x et z, dx, dz. D'accord ? Ça, c'est espérance. Donc, ce que vous voyez, c'est que vous avez une formulation qui est une formulation symétrique, maintenant, de l'expression de Monge. Et cette formulation symétrique, elle a des bien meilleures propriétés, parce que, notamment, vous allez avoir des propriétés convexité sur, à partir du moment où vous avez des distances qui vont bien être convexes. Et donc, vous allez vous retrouver sur, si c'est une distance, ça va être convexe, sur un problème qui peut se résoudre numériquement, relativement efficacement, tant que vous n'êtes pas en trop grande dimension. Quand vous êtes en très grande dimension, il va y avoir une explosion de la complexité numérique, mais tant que vous êtes en dimension raisonnable, sur z et x, c'est un problème qui peut se résoudre. Donc, pourquoi on a fait ça ? Ben, on a fait ça parce qu'il y a un résultat, et là, peut-être que Gabriel Perret vous le montrera ou vous l'expliquera plus en détail, je vais juste ici le mentionner, c'est le fait que cette métrique, maintenant c'est une vraie métrique de Wasserstein, donc là, ça garantit l'existence d'une solution, elle est plus faible. C'est-à-dire que si vous regardez la distance, par exemple, je vais vous prendre m égale 1, et c'est celle qu'on va prendre dans ces problèmes-là, entre p et q, deux distributions de probabilité, eh bien, pourvu que p et q soient supportés dans un compact, allez avoir une inégalité par rapport à la métrique, ou plutôt la divergence de Kullback-Leibler entre p et q. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la divergence de Kullback-Leibler, elle est plus sensible que la métrique de Wasserstein. D'un autre côté, la métrique de Wasserstein, elle est suffisante au sens où si ça vaut 0, ça veut bien dire que P est égal à Q. D'accord ? Donc, vous avez une métrique qui est plus faible et donc on peut espérer que cette métrique plus faible soit plus facile à optimiser. C'est-à-dire l'idée, si je reviens à mon problème de départ, c'est de remplacer ces métriques de Kullback-Leibler par une métrique plus faible. Donc ça, c'est ce qu'ont proposé dans un très joli papier trois chercheurs. Donc je vous donne Jean-Chai, Chintala et Boutou. Je vous mettrai le papier dans sur le site web. Et le théorème qui démontre, et ça je ne vous le démontrerai pas ici, c'est que la faiblesse de la métrique de Wasserstein apporte vraiment quelque chose, c'est-à-dire apporte beaucoup plus de régularité sur l'évolution de la densité de probabilité paramétrée. Autrement dit, donc, si je suppose que si θ, disons, transporte P en une distribution que je vais appeler Pθ. Alors, à ce moment-là, si Tθ est continu, alors la métrique de Wasserstein, elle va être presque partout continue en θ. Donc, autrement dit, si vous faites un changement de variable qui est régulier sur le transport, vos densités de probabilité vont évoluer, et si vous calculez cette évolution par rapport à cette métrique de Wasserstein, cette évolution va être continue. Donc, si vous faites un coût qui est basé sur la métrique de Wasserstein, vous allez pouvoir avoir un coût qui est beaucoup plus régulier et que vous avez plus de chances d'optimiser avec une descente de gradient. Alors, descente de gradient, on a envie d'un peu plus de régularité. Donc, si vous dites, si en plus Tθ est Lipschitz, et localement Lipschitz, donc localement Lipschitz, je reviendrai dessus, d'une manière générale, vous avez une fonction qui est Lipschitz, ça veut dire que f de x moins f de x prime, plus petit que une certaine constante k, x moins x prime. Donc si, et localement, ça veut dire quand x prime reste dans un voisinage borné, disons. Donc si elle est localement Lipschitz, alors la métrique de Wasserstein va être presque partout différentielle. Bon, je vais rajouter le presque partout. Différentielle. Donc vous avez de la régularité. Et puis le troisième point, c'est que ces deux propriétés A et B sont fausses pour la divergence de Kullback-Leibler ou divergence de Jensen-Shannon. Jensen-Shannon, c'est la divergence qui est définie par la somme des deux termes ici. Donc, on a bien une amélioration de régularité, donc on est content. Ça veut dire que, a priori, l'optimisation va mieux se passer. Alors, l'optimisation va mieux se passer, mais quand même, il faut faire attention, c'est que l'idée, quand même, ici, c'est qu'on n'a pas optimisé directement la divergence de Kullback-Leibler. La divergence de Kullback-Leibler, on l'a obtenue à travers un discriminateur. C'est-à-dire qu'elle a été obtenue à travers une maximisation sur tous les discriminateurs de cette quantité qui nous a amené à la divergence de Kullback-Leibler. Donc la question, c'est quel est l'équivalent de cette propriété? Et c'est intéressant de le regarder dans le cas du Wasserstein parce que ça vous montre, ça va vous, nous donner... Je vais le mettre comme ça. Ça va nous donner un cadre pour un peu mieux comprendre d'où sort le discriminateur. Donc, je vais mettre dans le cas, donc ici, m égale 1. Il y a un résultat de Kantorowicz Rubinstein, ce qu'on appelle le résultat de dualité, qui nous dit que la métrique de Wasserstein, on peut la calculer, W1, entre deux distributions P et Q, par une maximisation. C'est le sup, et là pareil, je ne vais pas le démontrer ici, sur toutes les fonctions F qui sont Lipschitz, donc je vais... Alors, Lipschitz, avec la norme de Lipschitz 1, ça veut dire que ceci, la constante ici, est égale à 1. Et donc, ça, c'est équivalent. Ici, ça va être uniforme, c'est-à-dire que pour tout x prime, on doit avoir que l'incrément est plus petit que la norme de x moins x prime. Essentiellement, la fonction va être presque partout dérivable avec une dérivée qui est bornée par 1. Vous pouvez le voir comme ça. Et donc, la métrique de Wasserstein, elle s'optimise en prenant l'espérance sur P de f de x moins l'espérance sur, pour les x qui suivent la distribution Q, de f de x. Donc évidemment, si p est égal à q, ça, ça va valoir 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux optimiser cette quantité, je peux passer par une fonction d'évaluation qui va être l'équivalent de notre D2X et calculer cette différence et optimiser cette fonction d'évaluation. Lorsque j'arrive au max, j'ai une évaluation de la métrique de Wasserstein. Ça veut dire quoi dans notre cas ici? Ça veut dire qu'on va définir... Alors, je vais vous le remonter. On va redéfinir l'optimisation là-haut. Pensez à D comme étant F de X, comme étant une fonction de coût qui est tout simplement celle-là, c'est-à-dire le sup sur les D qui sont Lipschitz, de l'espérance, donc de X distribué selon les données de D de X. Donc je réécris la même chose en remplaçant F par D, moins l'espérance pour les X qui sont distribués. Alors, les X maintenant vont devenir les Z selon P de Z, de F de G de Z. Excusez-moi, D de G de Z. D'accord ? Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai redéfini la distance de Wasserstein et je l'ai calculée en faisant un sup sur le D. C'est la même chose que ce que j'ai fait là-bas. Parce que qu'est-ce que je fais là ? Je fais un max ou un sup sur le D pour obtenir cette solution qui me donne la métrique de Jensen. Donc là, au fond, ce que ça montre, et c'est assez joli, ça donne une perspective différente, c'est que si on redéfinit la fonction de coût, on va aboutir sur une métrique qui est différente. La fonction de coût ici ne met plus en place le log, mais directement l'espérance de D de G de Z. Et donc, si vous faites ça, à ce moment-là, ça veut dire que quand vous allez calculer le sup de sur D de V de D et de G, eh bien vous allez obtenir la métrique de Wasserstein entre P des données et P de G. Et maintenant, lorsque vous allez optimiser les paramètres qui définissent le générateur, eh bien vous allez avoir une évolution qui est beaucoup plus régulière que si vous aviez fait ça sur la métrique de Jensen-Shannon. D'accord ? Donc, ce que cette perspective amène, c'est un peu de distance par rapport à ce résultat où tout d'un coup, on voit apparaître la métrique de Shannon en faisant une optimisation sur D, c'est-à-dire sur le discriminateur, en montrant finalement quand on change la fonction de coût, c'est-à-dire le V de D et de G, eh bien, on peut adapter la métrique. Et l'optimisation sur le discriminateur, en fait, c'est ce qui nous permet de définir indirectement une métrique entre la distribution qui a été transportée par le générateur et la vraie distribution des données. Et à la fin, ce qu'on veut, c'est une métrique qui va être facile à optimiser. Et donc, qu'est-ce qu'on optimise ? C'est les paramètres à travers la descente de gradient. Donc il faut que la métrique évolue régulièrement quand on change les paramètres, puisqu'on va définir un gradient sur la losse et donc sur la métrique. Et ce que ça dit ici, c'est qu'a priori, ça c'est un meilleur candidat. Super. Donc le papier est écrit, plein d'expérimentations numériques. Alors dans ce genre de situation, vous faites les expérimentations numériques, vous êtes sûr de mieux faire. Vous êtes sûr de mieux faire parce que on choisit bien les exemples, ça marche bien, etc. Et de fait, il y a une amélioration légère. Mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème parce qu'on se retrouve toujours devant ce problème. C'est qu'on est bien en train de résoudre un problème min-max, c'est-à-dire un équilibre de Nash, et il y a ces difficultés d'oscillation. Et puis, ça reste un problème très complexe, c'est-à-dire lorsque le discriminateur est coincé dans un minima local, eh bien, vous n'allez pas arriver à la bonne distance de Wasserstein. Et ça, c'est lié au fait que, oui, le transport en grande dimension, c'est un problème compliqué. le transport de Kantorowicz, c'est en deux dimensions, pardon, de Monge, quand on fait des remblais. Kantorowicz fait en plus grande dimension, mais là, on est en dimension 1 million. Et là, vous avez des algorithmes qui se deviennent très lourds. Et donc, indirectement, ça veut dire que l'optimisation sur D va être extraordinairement complexe. Donc, finalement, ça n'a pas vraiment résolu le résultat. Ça a donné une jolie perspective, mais pas résolu le problème. Alors, je vais quand même vous montrer des résultats sur des slides. Mais pour les montrer, je vais les montrer aussi sur le cas qui est finalement un peu plus facile. C'est le cas des GAN conditionnels. Et alors, ça, c'est ce qui est utilisé, par exemple, pour faire de la traduction entre des images. Donc, l'idée, c'est qu'on va rajouter une info supplémentaire. Qui va peut-être une prompt, qui peut être un label, qui peut être une autre image. Le label d'une classe, etc. Et on va remplacer la fonction de coût par, donc je vais reprendre la fonction de coût initiale, par une fonction de coût conditionnée à G. C'est-à-dire, je vais regarder l'espérance sur les x qui sont distribués suivant les données du log de D, c'est la probabilité que x soit une bonne image, sachant le label qui a été observé, sachant que je suis dans une classe, par exemple, y, et puis j'ai le deuxième terme. Je pourrais faire exactement pareil sur la métrique de Wasserstein. L'espérance sur Z distribué selon P de Z, donc du log de 1 moins D de G de Z, sachant Y. Donc je fais de la génération conditionnelle. D'accord ? Donc ça veut dire que le discriminateur là, je lui ai rajouté une information Y de label que j'ai introduit dans le discriminateur ici pour faire la discrimination. Alors, ça permet, par exemple, de transformer une image en une autre image. Donc, par exemple, Y, c'est, donc ça, c'est des résultats qui sont obtenus, donc, et qui sont montrés dans un papier de review de 1921. Donc, ça, vous avez une image, ça, c'est le Y. Et ce que vous voulez, c'est récupérer la même image en hiver. Donc, ça veut dire que vous avez des images ici de paysages en hiver et en été pour l'entraînement. Et maintenant, conditionné au fait que l'image soit une image d'hiver, vous rentrez le Y et vous voulez, qui en l'occurrence va être l'image d'été, et vous voulez obtenir l'image d'hiver. Même chose. Ici, voilà le Y, vous avez un trou ici. Ce que vous voulez, c'est récupérer l'intérieur du trou. Vous voyez, c'est plus facile parce que c'est plus contraint pour récupérer solution. D'une photo, vous voulez l'interprétation sémantique, vous voulez coloriser une image, vous lui donnez l'image noir et blanc, le GAN va à nouveau, à partir du bruit blanc, faire le transport pour calculer l'image couleur qui admet cette image noir et blanc comme solution admissible. Là, c'est une image de basse résolution, vous récupérez une image de haute résolution, d'une photo à une peinture, et voilà. Alors là, ensuite, vous pouvez faire des comparaisons avec plein de GAN différents. Donc ça, c'est ce qui est proposé dans cette papier de review. Donc là, vous passez d'une image et vous voulez faire donc le Y, là, dans ce cas-là, c'est... vous voulez non seulement avoir vous donner l'image, mais vous voulez aussi donner un label. Donc vous voulez arriver à une image qui a des cheveux bruns ou blonds, etc. Et voilà les différentes traductions qui sont faites du Y vers le X, et voilà les solutions suivant les différents types de GAN. Et donc, les différents types de GAN, ces différentes optimisations, les fonctions de coût sont changées, les architectures sont changées, etc. Et là, il y a énormément de travaux expérimentaux qui ont été faits. Ça, c'est d'autres types de traductions. Vous passez d'une image qui est une image réelle vers du manga. Donc pareil, vous avez votre target ici, c'est une image de manga. Donc, le D2, vous voulez X, c'est les images de manga. Ce que vous voulez rentrer, c'est l'image réelle. Et vous avez des traductions suivant les différents types de GAN, cycle GAN, etc. Vous pouvez passer d'une image d'un homme à une image d'une femme. Donc là, vous rentrez à nouveau l'image de l'homme. Et voilà les images de femmes synthétisées. OK. Alors, à ce stade, se pose quand même la question, est-ce que ça marche bien ? C'est-à-dire, vous avez des jolies images. Donc, il y a eu toute une phase où tout le monde a été très, très impressionné par la beauté de ces images, le fait qu'on soit capable de synthétiser des hommes, des femmes, etc., des chambres à coucher et autres. Le problème, c'est est-ce qu'on est vraiment en train d'obtenir une distribution générée qui est égale à la distribution des données ? Et donc, ça, c'est le problème de l'évaluation. Alors, ça, c'est le très gros problème. Donc, je vais maintenant évoquer ça parce que c'est ça qui va être une des motivations pour faire complètement évoluer ces architectures et ces idées. Le problème des GAN, c'est que il n'y a pas une optimisation explicite d'une métrique. L'optimisation, elle se fait par un argument de dualité, que ce soit dans le cas de Wasserstein, qui va optimiser la fonction D2X, mais vous n'avez pas accès à la métrique que vous voulez optimiser, parce que pour y avoir accès, il faudrait que D soit optimal. Or, vous n'êtes pas sûr que D est optimal. Donc, vous n'avez pas accès à la métrique qui compare. Et donc, du coup, ce que les gens ont fait, c'est des évaluations qui sont qualitatives. Donc, l'évaluation qualitative, ça veut dire quoi ? C'est que d'un côté, on va regarder un critère de fidélité. Fidélité, ça veut dire que, d'une certaine manière, quelle est la qualité de l'image ? Dans le cas d'une image, hein, mais dans le cas d'autres types de signaux, ce serait définir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'image est de bonne qualité ? Ça veut dire que chaque image générée peut être considérée comme une image admissible dans la distribution des données. Ce que ça veut dire, c'est que le support de la distribution générée est inclus dans le support. Si je prends le support, c'est des ensembles typiques, hein. C'est-à-dire, là je vous le fais qualitativement, hein. Est inclus dans l'ensemble typique, c'est-à-dire des réalisations typiques, des probabilités distribution de probabilités des données. Donc une image générée, c'est une image de visage. Ça, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut aussi, et c'est ça le gros problème des GAN, c'est de la diversité. La diversité, c'est-à-dire on ne veut pas se retrouver dans un mode unique, et donc vous avez besoin de l'inclusion inverse. C'est-à-dire que vous avez besoin de, effectivement, bien couvrir tout le domaine. Alors, la fidélité, c'est beaucoup plus facile à évaluer que la diversité. En pratique, qu'est-ce que les gens font ? Et de façon tout à fait classique, pour essayer de voir si vous n'avez pas un accès direct à P de G et P de D, parce que tout ce qu'on a, c'est des réalisations XI des vraies données, Et puis, dans le cas de P2G, bah, vous pouvez calculer des X'I qui sont générés. Et la question, c'est vous demander, est-ce que je peux inférer le fait que les distributions de probabilité soient égales? Une des façons de faire ça, c'est de faire une métrique sur les moments. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre votre X et vous allez calculer un vecteur de feature, qu'on peut l'appeler comme ça en machine learning, c'est-à-dire un grand vecteur de descripteurs à partir de X. Ça peut être la moyenne, ça peut être la variance, ça peut être des moments d'ordre P, ça peut être des choses beaucoup plus compliquées, des sorties de réseaux de neurones, etc. Et ensuite, vous allez regarder l'espérance de ceci relativement à votre distribution PG de données. Et la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que ces moments, ça, vous pouvez le calculer avec une méthode de Monte Carlo, ça, vous pouvez tout simplement le calculer à partir des données, comme 1 sur n, somme sur i, des phi de xi. Ça va vous donner une approximation de ça. Et ce que vous vous posez comme question, c'est est-ce que ça, c'est égal au moment par rapport à la distribution générée sur le vecteur phi de x. Autrement dit, est-ce que ça, c'est à peu près égal à la valeur 1 sur n, somme sur i, des phi de x'i. D'accord? Donc ça, c'est une façon, et c'est la façon classique, c'est de calculer des distances faibles sur des distributions de probabilité, c'est de regarder des moments. Alors, qu'est-ce qui a été proposé? Maintenant, toute la difficulté, c'est de choisir les moments qu'on va utiliser. Donc, et puis, ce qui a été proposé, c'est ce qu'on appelle, c'est, et qui est à peu près utilisé la plupart du temps en traitement d'image, c'est des descripteurs FID. Alors, les descripteurs FID, c'est les initiales de Fréchet, Inception Distance. Alors, Fréchet, d'où ça vient? Fréchet, ça vient de la distance entre deux variables aléatoires. On peut définir une distance à partir de, au carré, disons, à partir de la moyenne de la variable x moins la moyenne de la variable y au carré, plus la différence entre les déviations standards de x et de y. Donc ça, c'est dans le cas d'une variable aléatoire monodimensionnelle, c'est-à-dire x et y sont des variables. Si vous avez des variables aléatoires qui sont des vecteurs aléatoires, à ce moment-là, ben là, ça va être une distance entre les deux vecteurs. Les moyennes, ça va être des vecteurs. Donc, je vais définir une métrique quadratique. Et ça, on va le calculer à partir de la trace des covariances. Et ben, la distance au carré, ça va être la covariance. On va définir la covariance de x, covariance de y, moins deux fois la covariance jointe, c'était entre x et y. Voilà, donc ça, c'est la même chose dans le cas de vecteurs. OK, donc ça, c'est la notion de distance de Fréchet entre deux vecteurs aléatoires. Maintenant, la question, c'est quels vont être ces vecteurs aléatoires? Ces vecteurs aléatoires, on va les définir à partir d'un vecteur de feature. Quel vecteur? Ben, ce qui est proposé dans le cas des FID, c'est de prendre un réseau de neurones. Donc, le réseau de neurones, ça va être une architecture particulière qui s'appelle Inception. Ça, c'est ce qu'ils ont choisi et qui est devenu un standard. Je crois que c'est 3, mais je... oui. Version 3. Vous prenez votre réseau de neurones. Donc, vous avez votre image X en entrée. Vous avez toutes les couches. Et on va prendre la couche intermédiaire, une couche du milieu. On va entraîner le réseau de neurones pour que ça devienne un classificateur sur ImageNet. La couche du milieu, ben c'est un vecteur que je vais appeler phi de x. Et ça va être ça, mon x. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait ? On prend l'image, on prend toutes les images de la base de données, on les rentre dans le réseau de neurones, on regarde leur valeur sur la couche d'activation milieu du réseau de neurones. On va ensuite calculer les moyennes sur la base de données, les moyennes pour les images générées, calculer la différence au carré, calculer la déviation standard pour l'image d'origine et pour les images générées, calculer la différence, on obtient une distance, et ensuite on regarde si les distances sont proches ou pas. OK ? Donc ça, c'est un cas particulier d'une technique de moment, où les moments ont été définis à partir d'un réseau de neurones particulier, qui n'a rien à voir avec le réseau de neurones du GAN, ça évidemment c'est important, et on utilise ça pour évaluer la qualité. Donc ça, c'est ce qui est fait ici, dans ce genre de papier. Le problème, c'est que rien ne nous garantit que ces descripteurs soient suffisamment fins pour évaluer la distance. En particulier, ça dépend complètement de la façon dont le réseau de neurones a été entraîné. Ça a été entraîné, par exemple, sur des images d'ImageNet. Donc, il n'a jamais vu d'autres types d'images qui n'existent pas, par exemple, ImageNet, c'est, disons, des images de notre monde macroscopique. Il n'y a pas des images du cosmos ou autre. Et donc, il n'y a pas... Il n'y a aucune preuve que, effectivement, ça puisse avoir une métrique suffisamment fine. Et en fait, on sait que non. On sait que non, en particulier les phénomènes de mode collapse, ils les détectent assez mal avec ce genre de choses. Et donc, finalement, on est arrivé à un moment dans cette recherche où les gens continuaient à optimiser, mais n'arrivaient pas, avec des images de plus en plus belles, mais n'arrivaient pas à vraiment démontrer que ils arrivaient à un résultat précis au sens reproduire toutes les images qu'il nous faut, c'est-à-dire avoir suffisamment de diversité. Et donc, il y a d'autres approches qui ont été proposées pour éviter ces problèmes. Alors, ce problème de diversité, ce n'est vraiment pas un détail. D'accord ? C'est-à-dire que si vous utilisez un générateur pour, par exemple, optimiser un système et que vous évitez des cas, eh bien, votre système, il ne va pas être du tout robuste par rapport à des événements peut-être un peu plus rares, pas forcément d'ailleurs, qui risquent d'arriver. Donc ça veut dire essentiellement ce sont des outils inutilisables en dehors de produire des jolies images pour Hollywood, pour ce que vous voulez, mais ce n'est pas utilisable dans des systèmes physiques, des systèmes d'engineering, etc. Donc cette problématique de garantir qu'on obtient bien tous les cas possibles, elle est complètement fondamentale. Et la seule façon qu'on a trouvée, c'est d'avoir une vraie métrique. Ou la seule façon, c'est de pouvoir calculer une vraie métrique. Et donc ça va être l'approche des normalizing flows. Donc, l'idée, ça va être d'imposer que le transport soit réversible. Et plus que ça, c'est que le transport soit un difféomorphisme. Donc, les premiers papiers, ça date de 2018. Il y a eu pas mal d'auteurs qui ont fait ça. Je vous montrerai en particulier un algorithme qui est un des plus efficaces, qui s'appelle GLOW, qui a été fait par deux auteurs, donc un papier que je mettrai aussi, Kigma et Dhariwal. Au passage, je vous rappelle, il y a les notes de Jean-Éric Campagne qui sont sur le site et je crois qu'il va aussi proposer sur son GitHub des softs pour faire des simulations autour des GAN et des normalizing flows. Donc, c'est quoi le cadre des normalizing flows? L'idée, on est mathématique reste dans le même cadre, c'est-à-dire qu'on va définir un transport à partir d'une distribution relativement simple vers une distribution qui est potentiellement nettement plus compliquée, donc le domaine des X où je vais avoir ma distribution de probabilité. La différence, c'est que maintenant, le transport, j'impose non seulement qu'il soit inversible, mais différenciable. Autrement dit, j'impose que T soit un difféomorphisme donc, ça veut dire, à nouveau, inversible et que T et T moins 1 soient différenciables. Donc, ça impose en particulier le fait que ce soit un difféomorphisme, que la dimension de Z et la dimension de X soient les mêmes. Donc là, si Z est dans RD, X est dans RD. Donc je peux pas, alors que dans le cas du GAN, je peux très bien définir un Z en beaucoup plus basse dimension, c'est l'aléa que j'introduis, et un X en plus grande dimension. Ici, j'impose que les dimensions soient préservées. La deuxième idée, c'est qu'on va découper ce transport en tranches. Autrement dit, T, je vais commencer par un T1, suivi d'un T2, etc., suivi d'un TK. D'accord ? Donc, pourquoi je fais ça ? Parce que ça va me permettre d'optimiser chacun des éléments les uns après les autres. Si vous inversez T, eh bien, vous allez obtenir tout simplement, évidemment, l'inverse de T1. Alors, d'accord ? Donc, ça va me permettre de me concentrer sur un transport progressif. OK ? Alors, il va y avoir deux avantages, avant de commencer dans les détails, qui vont être donnés par cette approche. Le premier avantage, c'est que Z, maintenant, c'est une variable que je peux calculer à partir de X. Je peux revenir. Ça, ce n'était pas le cas du GAN. Dans le cas du GAN, j'ai un générateur, mais le générateur, a priori, il n'est pas inversible. Donc, si j'ai un X, je ne peux pas revenir au Z. Z, ça va avoir un rôle de variable latente. On appelle les variables latentes, c'est en quelque sorte des variables dont la variabilité est plus simple, explicative. Alors, ça va être quoi l'intérêt ? C'est qu'une fois qu'on est dans le monde des Z, si ceci, c'est tout simplement une métrique, une distribution gaussienne, c'est-à-dire du bruit blanc, avec une covariance 1, c'est-à-dire que la métrique naturelle dans ce domaine, c'est tout simplement la métrique euclidienne. Donc ça veut dire que, par exemple, dans ce domaine, je peux faire des interpolations linéaires, je peux prendre une image ici, me retrouver ici, faire une modification très simple, revenir et obtenir une transformation intéressante dans ce domaine. Et on verra qu'on peut faire des interpolations, des déformations, on peut introduire des lunettes, enlever des lunettes, etc., sur, par exemple sur des visages, en revenant là-dessus. Donc ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point qui est plus important par rapport à tout ce dont on a discuté, c'est qu'on va faire un calcul explicite des distances. Et en l'occurrence, la distance, ça va être la distance de maximum de vraisemblance, de la vraisemblance. Qui dit vraisemblance, ça veut dire la divergence de Kullback-Leibler. Et donc, on va avoir un calcul explicite de cette valeur, ce qui fait qu'on va pouvoir voir et comparer des algorithmes en regardant la valeur obtenue avec cette divergence. Le dernier point, c'est qu'on va éviter le min-max, ou autrement dit, de calculer cette, cet équilibre de Nash qui est compliqué parce que ça produit des oscillations. Donc ça, c'est les arguments qui motivent cette approche. Donc vous voyez, 4 ans après, les gens... Quoi, 4 ans après? Publié en 2018, ça veut dire que le travail a été fait en 2016. Donc ça veut dire très, très vite. On s'est rendu compte que cette approche de Gann, en tout cas, certains chercheurs se sont rendus compte que cette approche de Gann se retrouvait vraiment devant un mur et qu'il fallait essayer quelque chose d'assez radicalement différent. Radicalement différent, mais il y a quand même une idée fondamentale qui reste du Gann, c'est que le transport, il va être calculé avec un réseau de neurones profonds. Donc si jamais... donc ça, ça reste. Alors, pour comprendre comment on optimise un transport comme ça, je vais revenir sur l'effet d'un transport sur la distribution de probabilité. Donc, ce qu'on veut, pour bien voir qu'est-ce qu'il faut calculer pour calculer le transport d'une probabilité. Donc, ce que je vous ai écrit, c'est que la distribution des X, je vais l'écrire comme un push forward, mais ça veut dire quoi? De P de Z. Comment est-ce qu'on calcule cette transformation? Donc, si je regarde mon premier domaine, je vais regarder un ensemble de coefficients dans Z, par exemple, qui est dans un ensemble A, et puis ça va être envoyé ici dans un autre ensemble. Excusez-moi. Et l'idée, si vous avez un transport, et ici on est dans le cas d'un transport déterministe, c'est que toutes les particules ici, de Z, ils se retrouvent en T de Z, en X, qui est égal à T de Z. Donc, si je regarde la proba de ceci et la probabilité de ceci, c'est la même, d'accord? Donc, pour calculer la probabilité du transport, si j'ai ma probabilité ici, je vais utiliser le fait qu'il y a une forme de conservation. La densité, le nombre de particules ici est égal au nombre de particules ici. Une autre manière de voir, c'est que je peux regarder l'opérateur inverse qui va me dire, si je regarde un domaine ici, d'où ça vient? Ça vient d'ici. Alors, ça veut dire que si j'écris ceci, c'est que je compare la fonction sur une fonction de test, si je regarde un moment P de X dx, et bien ça, ça va être la même chose que si je fais l'intégrale, je regarde d'où viennent les particules, donc les particules, elles viennent de ma variable Z, et le nombre de particules, autrement dit la probabilité, elle est donnée par Pz de Z, dz. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on peut définir cette densité. C'est la densité telle que si je prends n'importe quelle fonction de test, je vais avoir la même chose que ce que j'obtiens si je fais le transport par T. Donc ça, c'est une équation de conservation de la masse. Donc maintenant, si vous prenez un cas particulier H, qui est par exemple l'indicateur d'un ensemble A, ben ça va être autre que la probabilité calculée par rapport à G de A. Et ceci, si vous le regardez, c'est l'ensemble par rapport à Z des points qui proviennent de l'ensemble A. Donc ça va être P de Z. Donc la probabilité calculée par des points qui viennent de A. Donc si ça s'appelle A, vous regardez la probabilité de ceci, c'est la probabilité, par rapport à cette métrique ici, de T-1 de A. C'est d'où viennent les particules. OK, donc maintenant, pour regarder le lien entre ceci et ceci, il faut que je fasse le lien entre dx et dz. mais x était 2z. Donc dx, bah, c'est tout bêtement un changement de variable. Ce que je vais avoir, c'est le d2z fois le module du déterminant du jacobien. Le jacobien de la transformation par rapport à z fois dz. Donc, je vous rappelle, le jacobien, qu'est-ce que c'est ? Le jacobien d'une transformation par rapport à z, c'est la grande matrice. La transformation T, elle a différentes composantes. T de z, c'est un vecteur de tk de z. Donc là, je vais avoir la dérivée de la première composante par rapport à la première composante de z. Et puis, vous allez avoir, comme c'est inversible, le nombre de composantes, c'est d. Donc d1, d de td sur dérivée par rapport à z1. C'est le jacobien que j'écris, mais je vous le rappelle. Et puis, j'ai la dernière composante, d de z1, et par rapport à la dernière variable, pardon, d z1, première colonne, d de td de zd. OK, ça c'est le jacobien. Donc, vous avez une grande matrice qui est une matrice carrée, parce que je vais de dimension d à dimension d. Je calcule son déterminant et je calcule le module du déterminant. Et maintenant, une fois qu'on a ça, je peux faire le changement de variable à l'intérieur, le faire ici, de l'équation. Donc si je reprends cette équation, ben, j'ai l'intégrale de h de x, pg de x dx, t de z. Donc ça va redevenir h de x. Pz, ça va être t moins 1 de x. Et dz, c'est d de x divisé par le déterminant du jacobien pris en z, donc en t moins 1 de x. Donc, ça c'est vrai pour tout h. Donc vous avez un produit scalaire entre la probabilité ou une intégrale pour tout h entre une fonction et cette même fonction et une autre. Donc forcément, vous allez avoir une égalité entre les deux fonctions. Autrement dit, pg de x, c'est pz. Donc vous voyez le transport par t moins 1, mais qui est renormalisé par la métrique, changement de métrique qui est défini par le jacobien. Pardon. Alors, le jacobien de T, je peux le réécrire l'inverse du jacobien de T, je peux aussi le réécrire comme le jacobien de T moins 1. C'est-à-dire ça, ça peut aussi se réécrire, c'est-à-dire je fais l'inverse ici, si vous le passez de l'autre côté, comme ça, vous pouvez aussi l'écrire comme z égale t moins 1 de x, vous calculez la même chose, ce que vous allez obtenir ici, c'est que vous allez avoir t moins 1 de x, et puis ici, le déterminant, si je veux le mettre au nominateur, ça c'est le déterminant du jacobien de t-1 pris en x. Donc, vous avez un changement de variable qui va vous donner un transport des probabilités, la probabilité du générateur en x. Elle va se calculer à partir de la probabilité de la variable latente transportée à partir de x par t-1, mais surtout, vous avez ce changement de métrique. Et ce changement de métrique vient d'où ? Eh bien, si jamais vous avez un transport qui va comprimer, bon, là, c'est une dilatation. Donc, vous avez d'un petit domaine à un plus grand domaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la densité de probabilité ici, elle va être plus faible que la densité de probabilité ici, puisque vous avez transporté autant de particules, mais que le domaine est plus grand. D'accord ? Et donc, cette variation du domaine, c'est cette quantité-là, en fait, ça calcule le rapport entre les volumes, et donc, c'est ça qui va vous donner cette transformation. Alors, ce qui est important ici, c'est qu'on voit qu'il y a un point délicat quand on calcule ces transports, c'est qu'il va falloir être capable de calculer le déterminant du jacobien pour vraiment pouvoir calculer l'évolution de la densité de probabilité. Alors, je vais terminer sur, et je reviendrai dessus la fois prochaine, sur maintenant l'optimisation de la vraisemblance. Je vais vous donner juste l'idée rapidement et je le referai plus en détail. Donc, l'idée, c'est qu'on va définir un transport qui va être paramétré par des variables θ qui vont être essentiellement être des réseaux de neurones profonds. D'accord ? Et donc, ce que je veux, c'est que mon P de Z, il va être transporté en un certain Pθ. Et ce que j'aimerais, c'est que ce Pθ, il soit égal à la probabilité des vraies données X. D'accord ? Donc, comment je peux tester ça ? Ben, on a vu ce qu'on peut faire. On va calculer une vraisemblance. Et là, je vais calculer moins la vraisemblance. Donc, la vraisemblance, ça serait quoi ? Ce serait l'espérance par rapport à la vraie distribution de probabilité du log de la probabilité θ, où x est distribué. Et si on prend moins la vraisemblance pour la minimiser, on a ceci. Et ce qu'on a vu, c'est que ça, si vous écrivez ça sous forme d'une intégrale, ça, ce n'est autre que la distance de Kullback ou la divergence de Kullback-Leibler entre Px et Pθ, plus une constante qui n'est autre que l'entropie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est on va minimiser ça. Donc ça, c'est moins la vraisemblance qu'on va essayer de minimiser. L'avantage de travailler directement là-dessus, c'est qu'on va pouvoir voir quelle est la valeur de la vraisemblance. C'est quoi cette quantité ? Ben, log de Pθ de x, Pθ de x, je peux écrire ce que c'est la distribution qui a été transportée à partir de Pz. Donc, j'ai la formulation ici, c'est Pz de t-1 θ de x fois le module du déterminant du jacobien tθ-1 D'accord ? Donc, c'est un produit de deux quantités. Donc, si je calcule le log, je vais avoir la première quantité, ça va être le log de Pz de Tθ-1 de x. Et puis, la deuxième quantité, ça va être le log avec une espérance du log du déterminant du jacobien de θ-1 pris en x. Donc, l'enjeu pour calculer la vraisemblance, Pz, ça je le connais, si c'est une gaussienne, c'est exponentielle, moins la norme au carré divisé par 2 sigma carré, si c'est du bruit blanc, ça je sais le calculer. θ, il va falloir avoir une transformation paramétrée que je peux inverser. Mais là, la difficulté, c'est le jacobien. Il va falloir être capable de calculer le jacobien et le déterminant du jacobien. Donc si ça, c'est une transformation d'une dimension 1 million, 1 million, je vais me retrouver avec une énorme matrice de taille 1 million fois 1 million, dont il faut ensuite que je calcule le jacobien et le déterminant, c'est un enfer. Sauf si je prends θ de manière à ce que ce jacobien soit facile à calculer. Et tout l'enjeu du domaine, ça a été, ou de ce type d'algorithme, ça a été de définir des θ paramétrisés qui permettent de calculer ce jacobien de façon efficace. Donc, je reviendrai là-dessus la fois prochaine. Et ce que vous allez voir, c'est qu'il va y avoir à nouveau une évolution. Au bout d'un moment, on va se rendre compte que discrétiser le transport, c'est trop compliqué et qu'il vaut mieux passer à du transport carrément continu. Et on va se retrouver encore dans un autre domaine des mâles. Alors, juste, il va y avoir immédiatement après la remise des prix avec 4 présentations de gagnants qui vont vous montrer un peu comment ils ont fait leur challenge et comment aborder ce genre de problème. Pour la signature, on va mettre les feuilles juste ici. Je vous remercie beaucoup, de manière à ce que les étudiants puissent signer. Ceux qui ne sont pas inscrits, trop tard. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Et donc, à tout de suite pour la remise des prix.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.